Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce mag. Depuis CFM Keylus, on vous proposera des balades naturalistes du côté de Saint-Antonin et de ses alentours. Plusieurs propositions autour de la faune, de la flore, de la géologie et même des étoiles à faire en toute saison avec l'Opli Bleu. On recevra Stéphane Guittard, guide naturaliste après, oui, puisqu'on est mardi, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. Et on retrouve, depuis la médiathèque de Keylus, Victor Le Guenec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause déboire, science, oxymore et ténèbres. Avec, pour commencer, un livre documentaire pour la jeunesse, Les Mésaventuriers de la science de Jim Jourdan, qui illustre dans ce livre les anecdotes improbables et impayables de chercheurs sur le terrain. Car, comme nous le rappelle l'auteur, si on s'imagine souvent les scientifiques planqués derrière un microscope à observer des trucs bizarres, ils vont aussi sur le terrain, dans la nature plus ou moins dangereuse, observer ce qu'on y trouve. Volcans, fossiles, animaux et plantes en tout genre. On va donc suivre 25 scientifiques qui nous racontent des mésaventures qui leur sont arrivées. On retrouve ainsi Agatha Staniewicz qui s'est accidentellement collé la main à la superglue sur un crocodile. Tara Easter qui, pour s'approcher d'une ruche, enfile une combinaison d'apiculteurs remplis de fourmis légionnaires. Ou encore Simon Durès qui, au lieu de diffuser des cris de buffle pour attirer les lions, balance en pleine puissance du ACDC en pleine savane. Bref, plein de petites histoires rigolotes, accompagnées d'une description du boulot de chaque scientifique sur les conditions de travail dans la jungle, sur les volcans en éruption, les rivières en pleine crue qui avalent les bateaux, bref. Plein d'aventures plus improbables les unes que les autres, mais qui nous donnent une autre idée de l'exercice de la science. C'est drôle et superbement illustré et ça donne une furieuse envie d'aller explorer ces contrées certes hostiles mais non dénuées d'un charme aventurier, de faire de la science de terrain, de la tribulation observatrice, bref, de véritables odyssées éducatives. On rit à gorge déployée tout en s'instruisant. Et tout de suite, on enchaîne en restant dans l'improbable par une autre sorte d'aventure avec la BD « Jolies ténèbres » de Kerasquet et Vellman. Mais comment décrire cette œuvre déroutante? On ne fait pas mieux dans l'inattendu et les détonnants. Une claque oxymoresque dont le titre illustre à merveille les contradictions. Tout commence avec de petits êtres tout mignons, tout pleins, qui organisent une jolie dinette avec une belle petite blonde ayant de faux airs d'Alice et son prince charmant. Dinette macabre s'il en est, puisque cette dernière a lieu dans le décor le plus malsain qui soit. Presque d'entrée de jeu, le ton est posé, décalé, à la fois gothique et naïf, allégorique et franchement cru. On joue en permanence sur les contrastes, et à mesure que l'on pénètre dans cette jungle étrange dans laquelle ces homoncules tentent de survivre avec une candeur toute enfantine, un malaise très adulte, lui, s'installe durablement. Cet écart permanent entre les couleurs, le dessin plus qu'innocent et le monde autour qu'on ne fait qu'apercevoir nous plonge dans une angoisse le plus sordide. C'est organique, glauque, cruel, mais définitivement hypnotisant, et plus vous vous laissez happer par l'ingéniosité des personnages, plus la chute sera terrible. C'est jouissif à lire. Une plongée dans un innocent enfantin qui ne saisit pas l'horreur d'un monde adulte. Ça ne laisse pas indifférent, ça marque de par une beauté sombre qui se dégage de l'œuvre. À ne pas lire avant de dormir, à moins de prévoir un Gaston ou un Astérix pour redescendre de cet ascenseur émotionnel. Les Mésaventuriers de la science de Jim Jourdan et Jolies ténèbres de Vellman et Kerasquet sont à retrouver sur le réseau des médiathèques du QRGA. Bonne lecture et à bientôt.
Et toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont à retrouver tous les mardis dans le mag ou bien en podcast, tout de suite et tout le temps sur le site cfmradio.fr.
Qu'un grain de poussière sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
Calme. FM Kélus, le mag.
Découverte des animaux, des végétaux, de la géologie, en passant par les étoiles. Du côté de Saint-Antonin-Nobleval, il y a l'Opli Bleu et son gérant et guide naturaliste. C'est avec nous Stéphane Guittard, bonjour.
Bonjour.
Bon, déjà, l'Opli Bleu, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'Opli Bleu, c'est un petit insecte que l'on trouve fin juin sur les orties au bord des rivières, notamment l'Aveyron, et qui est bleu, c'est un petit scarabée. Et le mâle est vraiment bleu, on dirait un petit bijou, il fait 11 mm de longueur. Et il lève ses pattes, il se met au des plantes, il lève les pattes arrière vers le ciel, et il diffuse ses phéromones pour attirer les femelles, pour se reproduire.
Femelle un peu plus moche.
Alors non, elle est très belle la femelle, mais elle a des couleurs plus ternes, un peu plus marron, un peu plus petite, et elle est beaucoup plus discrète. Et voilà, ce sont des insectes qui vivent aux dépens des racines, des orties et des autres plantes.
Opli Bleu présente dans le Tarn-et-Garonne, mais pas que, ce qui vous donne du grain à moudre pour vos visites. Alors vous en proposez tout au long de l'année, de jour, de nuit, à la tombée du soleil, ou bien dans un cirque au bord des rivières, dans les orties même, tout un tas de balades en votre compagnie, où vous nous expliquez un petit peu sur quoi on est en train de marcher.
Voilà, tout à fait. Donc je propose plus d'une vingtaine de sorties naturalistes différentes qui se passent soit avec une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire on passe 2 heures et on va découvrir des choses magnifiques comme la géologie, la flore, la faune, l'écologie de terrain. Et la période des chauves-souris qui commence à sortir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre-novembre.
Alors là, je vous coupe, mais c'est un peu dangereux. Pour le coup, les chauves-souris, elles sont protégées.
Alors, ce sont des animaux qui sont protégés. Mais ce que je propose, c'est des sorties nature nocturnes qui se situent sur des circuits que j'ai préparés. Et donc, je commence par parler un petit peu de la géologie de la flore. Ensuite, j'ai des posters avec les chouettes et les hiboux. Je parle des chouettes et des hiboux qu'il y a dans la vallée. Et peut-être qu'on entendra au cours de la sortie nocturne. Et après, j'ai un détecteur d'ultrasons chauves-souris. Et les chauves-souris, quand elles passent à côté du détecteur d'ultrasons, donc cet appareil transforme les sons inaudibles, les ultrasons qu'on ne peut pas entendre humainement, en sons audibles pour nous. Donc, c'est une transcription de leur ultrason qui leur permet de se mouvoir dans la nuit. Et donc, je parle des chauves-souris, je explique combien il y a d'espèces en France, pourquoi elles sont protégées ici, pourquoi ici c'est classé Natura 2000 avec certaines espèces, pourquoi elles sont protégées, et voilà, donc c'est...
Pouvez-nous faire le cri de la chauve-souris ? Ça fait quoi comme cri ? Ça fait...
On ne les entend pas.
Oui, alors du coup, alors, transcrite en non-ultrason, c'est alors, plutôt...
Ça fait... Bon. Des choses comme ça.
Je pensais que c'est quelque chose de beaucoup plus aigu.
Alors oui, mais parce que j'ai du mal à le faire. Mais l'appareil, ça crépite. on dirait des bulles de savon qui explosent. Donc, c'est un appareil qui nous permet d'écouter un petit peu les chauves-souris.
Alors, il y a de quoi faire, hein, parce qu'on parlait un petit peu des insectes, donc des chauves-souris. Oui, il y a aussi le chevreuil, le cerf, le lièvre, le lapin, le sanglier, le blaireau, j'en passe là.
Oui, et puis les insectes, les papillons, il y a les papillons qui sortent dans les prairies de fauche, sur les côtes, un peu partout. Donc, chaque femelle insecte, un papillon, va pondre ses œufs sur une plante bien spécifique. Les chenilles vont manger cette plante-là, et après se transformer et devenir des papillons.
D'où la sortie dans les orties. Je sais qu'il y a des papillons qui adorent vivre dans les orties.
Tout à fait, le vulcain et puis 4, ouais. 5 autres espèces de papillons différentes qui vivent aux dépens de l'ortie, mais même plein d'autres. Hein. Alors, l'ortie, je fais aussi des sorties sur les plantes qui se mangent. Alors, j'explique pourquoi l'ortie, c'est bon à manger en tisane ou en soupe. Et je fais même en anglais des sorties sur les plantes qui se mangent en anglais, pour les anglais qui sont très friands de ces sorties-là.
Comment dit nombril de Vénus en anglais?
Ah, je me souviens plus. Mais j'ai les textes, je les traduis sur Internet. Et après, je les transcris et je les lis en anglais sur mon smartphone. Après des captures d'images que j'ai faites pendant qu'ils sont en train de ramasser les orties, j'explique, je leur lis le texte sur mon smartphone. Donc c'est très ludique, c'est très pratique, et bon, je m'améliore année après année avec ma méthode, parce que la première fois, là c'est ma deuxième sortie que je fais, bon ils sont très contents,
en anglais.
Et j'avais mes papiers, hein, j'avais mes parchemins, et je les dis ça comme ça, ça faisait des ordres un peu, mais petit à petit je maîtrise un peu plus tout ce qui est technologique, et c'était pas évident, hein, je reviens de loin.
Les animaux, les végétaux, les insectes, alors les étoiles aussi.
Voilà, donc depuis 1982, depuis mes 16 ans, ma mère m'a offert un télescope, un 115-900 japonais. Alors 115-900, c'est 115, c'est le miroir, le diamètre en millimètres, c'est 115, 11,5 cm, et 900, c'est la focale. C'est-à-dire la longueur entre le miroir et l'endroit, le petit miroir où se fait la focale ou la mise au point, ça fait 900 mm, 90 cm.
Et donc on a un télescope pour 20 personnes, on se bat?
Ah non, pas du tout. Alors s'il y a 20 personnes, j'ai une paire de jumelles astronomiques pour montrer par exemple la galaxie d'Andromède ou pour montrer la nébuleuse de la Lagune. Ou les Pléiades, ou des choses qui auront besoin d'un faible grossissement et beaucoup de luminosité. Après, j'ai le 115-900 que j'ai, et deux autres petits télescopes aussi, qui permettent de voir plus les planètes. Hein, et voilà. Et après, je montre un petit peu le ciel, j'explique ce qu'il y a, les choses. Voilà. Bon, je fais ça depuis 30 ans, un peu plus.
On n'est pas dans le triangle noir ici?
Si, tout
si,
à fait.
On y est encore.
Si, alors il y a un endroit qui est dans le Lot qui s'appelle Lunegarde. Et c'était il y a 10 ans, 15 ans, l'endroit le plus propice pour observer les étoiles. Il y a très peu de lumière parasite. Et on a la chance ici quand même, par exemple quand on est au Roc des Miers,
à Saint-Antonin,
on est au bord du village de Saint-Antonin. Donc, il y a un petit peu de lumière parasite. Eh bien, quand on y est, dans une prairie au-dessus, sans lune, hein, on arrive à voir très bien la nébuleuse, la lagune à l'œil nu et la galaxie d'Andromède. Quand on arrive à voir ça, à l'œil nu, c'est que le ciel est extraordinaire. Mmh. Voilà. Mais ceci dit, on est quand même en plaine, à 340 mètres d'altitude. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas comme si on était à 2000 mètres d'altitude. Il y a quand même l'atmosphère avec des petites perturbations dues à des couches d'air, températures différentes, qui vont perturber un petit peu l'image. Mais grosso modo, si on grossit pas trop les planètes, par exemple, si on dépasse pas sans grossissement, par exemple, si on regarde la Lune, Jupiter ou ses satellites ou Saturne, par exemple, si on grossit pas trop, par temps sec, ça va.
Alors, le ciel. Les animaux, les végétaux, il manque les champignons et la géologie.
Les champignons, je ne suis pas... Quand j'ai fait ma formation en Bretagne, on a vu plusieurs modules, module champignons, module les plantes à fleurs, les transepts, c'est-à-dire voir sur une surface combien il y a d'espèces, voilà, des outils qui nous permettent d'étudier. Les champignons, j'ai pas pris les champignons, c'est-à-dire que j'ai acheté le bouquin, j'ai suivi les cours, mais la sauce n'a pas pris. Ça va marcher. Donc les champignons, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir affaire à des profs, des spécialistes qui sont tout le temps avec nous pour nous expliquer. Il faut aimer ça. Franchement, c'est très difficile à digérer les champignons.
Mais...
c'est le cas de le dire. Mais j'en connais quelques-uns. Hein. J'ai des photographies et j'explique un petit peu de choses sur eux. Alors, ils ont un rôle très important. Et les champignons, ce qu'on voit, c'est la partie simplement émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, le vrai champignon, c'est des filaments qui se trouvent dans le sol, dans l'humus. Hein. Et qui aident les racines des arbres, des arbustes, des plantes à fleurs, etc., à capter l'eau et les sels minéraux. Et des études ont été faites dessus qui prouvent que 99% des capacités des plantes à pomper l'eau et les sels minéraux, c'est grâce au mycélium, aux champignons. Hein. Et c'est aussi, ça permet aussi de partager avec les autres arbres qui ont des difficultés à avoir des substances nutritives. De l'alimentation qu'on a, nous. Alors, imaginons un arbre, un grand arbre, et qu'un peu plus loin, il y a un arbre vieux ou famélique, c'est-à-dire très maigre, qui a du mal à trouver sa nourriture. Ben, le grand arbre va partager sa nourriture avec le petit arbre grâce au mycélium. Donc il y a plein de réseaux. Ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Et c'est merveilleux parce que tout est un petit peu comme, vous voyez, Internet. C'est des filaments, c'est des connexions. Et ben, plus il y a des connexions, plus ça s'harmonise. Et ça revient un peu au cosmos. Les galaxies, entre elles, ça forme comme des espaces lacunaires, des filaments. Vous voyez, des bulles de savon jointives. Quand on regarde, il y a une astrophysicienne française qui a écrit des livres sur le déplacement des galaxies. Et elle a mis en évidence des grandes structures de l'univers qui ressemblent à des bulles de savon jointives. Et elle a appelé ça l'Aniakea, c'est une phrase qui, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement en hawaïen, mais enfin, c'est très intéressant, on découvre des choses magnifiques.
En tout cas, c'est vachement moins poétique ce que je vais dire, mais du coup, quand on mange un champignon, en fait, on mange un pénis, hein, puisque les trois quarts des choses se trouvent sous
la... Oui, parce que, oui, alors c'est vrai que ça ressemble, il y a le phallus impudique qui ressemble à un pénis humain, en tout cas.
Non, mais c'est là que sortent les spores, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment l'appareil oui. Reproductif.
Voilà, c'est ce qui permet à la reproduction de se faire, tout à fait.
En tout cas,
c'est pour ça que quand on les cueille, il faut prendre un opinel et puis laisser un centimètre au-dessus et pas arracher le mycélium, sinon
mais
on rompt la communication.
Surtout pas utiliser son râteau, effectivement.
Ah oui, voilà.
En tout cas, vous avez la corde, la flèche géologique aussi à votre arc. Ce qui, à Saint-Antonin-Nobleval, c'est pas dommage.
Voilà, donc en fait, j'ai étudié la géologie de la forêt de Grésigne, vallée de la Vère et vallée de l'Aveyron. Avec une approche multidisciplinaire, j'étudie tout ça, et notamment la géologie. Grâce aux cartes géologiques, qui sont publiées par le BRGM, on peut s'acheter une carte géologique du coin, par exemple, hein, d'ici, ça coûte 60 euros. BRGM, c'est Bureau de Recherche Minière et Géologique Nationale hein, de France. Et donc, c'est une grande carte qui ressemble à une carte IGN, mais avec plein de couleurs dessus, des codes couleurs. Et c'est livré avec un petit livret, et les géologues, parce qu'ils sont une vingtaine de géologues à avoir conçu cette carte, il y a énormément d'informations sur cette carte, ils ont mis les codes couleurs avec, par exemple, I4PL, ça, c'est, ou L4PL, par rapport à telle couleur, alors ça explique que ça, c'est une roche qui a 185 millions d'années, qu'à ce moment-là, quand ça a été créé, il y a des vasières argilo-calcaires, plus ou moins oxygénées, etc., qui se développaient, que le climat, c'était subtropical, humide... avec une légère augmentation de l'humidité parce qu'il y a des spores de fougères qui sont plus nombreux. Donc il y a plein d'informations. Tant qu'en fait, c'est comme une grosse balle de foin. Il y a les aiguilles dedans et il faut arriver à trouver les aiguilles qui sont les informations maîtresses hein, qu'on peut utiliser en sortie nature pour expliquer des choses. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié tout au long de l'année, pendant plusieurs années, 10 circuits, les mêmes circuits. Je sais telle roche ce que c'est, de quand ça date, les paysages quand ça a été conçu, à quoi ils ressemblaient, des paysages actuels. Donc vous avez telle roche, ça date de 199 millions d'années par exemple. À quoi ils ressemblaient ces paysages? Mais par exemple à la baie des requins en Australie. Vous avez de l'eau jusqu'à 1,80 m par exemple, puis vous baissez. Hein, vous mettez la tête sous l'eau un petit peu, puis il y a des petites vaguelettes sur le sol, c'est-à-dire c'est le sable qui fait des marques de rivage. Et on a ici actuellement des roches avec des traces, des marques de rivage qui ont 199 millions d'années. C'est pas des fossiles, parce que les fossiles, ça concerne les êtres vivants. Mais une marque de rivage, c'est une empreinte d'un morceau de plage, de vasière de l'époque.
Vous avez donc fait le tour de ces circuits, alors géologiquement, mais aussi vous avez certainement repéré les animaux, les végétaux, donc pas les champignons, mais les étoiles aussi qui gravitent. Vous avez préparé des circuits qui sont accessibles un petit peu à tous les âges. Il y a en général 2 heures de balade.
Voilà, 2 heures, 3 kilomètres minimum. Et même pour les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, les rendez-vous, ils sont à des endroits bien particuliers. On n'a pas besoin de monter 150 mètres de dénivelé. On peut rester sur la courbe de niveau et on peut aller droite, à gauche, et on reste à peu près sur la même courbe de niveau. On peut faire 1 kilomètre, 1,5 kilomètre maximum. C'est accessible vraiment à pratiquement toute personne.
Et de toute façon, ça arrête tous les 2 mètres.
Pas forcément. Alors j'essaie de pas trop m'arrêter parce que l'objectif c'est pas c'est de laisser les gens libres aussi. Alors j'ai une technique, j'explique une dizaine de choses ou une vingtaine de choses. J'essaie de m'arrêter une dizaine de fois pour expliquer des choses diversifiées, afin que les personnes se fassent une idée globale de la nature. On a toujours des gens qui préfèrent la bétonique et puis pas la géologie, d'autres qui vont préférer les insectes, etc. Donc chacun y trouve à peu près son compte. Et ça, c'est toutes les connaissances techniques. Après, il y a l'approche sensorielle, c'est-à-dire je fais toucher les troncs, je fais sentir l'humus. Je fais regarder, écouter, et surtout, quand je me promène, je disperse les personnes tous les 10 mètres. Et pendant 10 minutes, je leur dis, voilà, vous ne bougez plus, vous écoutez, vous êtes très attentif à tout ce que vous voyez, et vous ne bougez plus, vous fondez dans le décor, et vous attendez 10 minutes. Et là, la nature va venir à vous. Tout d'un coup, les oiseaux, ils n'ont plus peur, ils ne lancent plus de cris d'alarme, ils ont commencé à arriver. Et comme ils ne passent pas en courant devant la nature, ils se sont posés, et au bout de 2 minutes, ils voient un insecte à moins d'1,2 mètre qui se déplace, puis autre chose à côté, et puis tout d'un coup, ils voient un autre insecte qui était à 50 cm, ils ne l'avaient pas vu. Donc les oiseaux s'approchent, enfin il y a ce rebranchement des personnes sur la nature, et c'est une expérience à vivre qui les marque.
On peut retrouver toutes les sortes de balades, tous les parcours, tous les heures possibles. Il y en a la nuit, le jour, à la tombée de la nuit, sur votre site internet www.oplibleu.fr, opli H-O-P-L-I-E, bleu comme le bleu, .fr. Donc Stéphane Guittard, vous êtes gérant de l'Oplibleu et guide naturaliste. Pour conclure, on peut vous demander quand même d'où vous vient, comment a été infusée toute cette science. Vous avez une formation ou c'est une passion de vous promener comme ça?
Alors j'ai un diplôme, j'ai fait une formation en Bretagne. Ils étaient avant-gardistes dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Et je suis d'une génération où, avant les BTS qu'ils ont créé après, voilà. Et c'est encore une époque où on appelait la nature. Après, ils ont transformé ça, ils ont appelé ça l'environnement.
Ouais.
C'est un mot que j'aime pas.
L'environnement ne nous comprend pas, nous humains, la nature non plus.
Alors, ce que j'essaie de transmettre dans mes sorties, c'est que la nature fait partie de nous, on en fait partie, et chaque être vivant sur Terre, c'est une pièce du puzzle, du grand puzzle, et que nous, il faut qu'on retrouve ce que l'on est, c'est-à-dire une pièce du puzzle, et notre mission sur Terre, c'est de protéger la vie, c'est pas de faire l'inverse, et on a tendance à avoir oublié complètement qui on est, ni d'où on vient. Et il a été prouvé, je ne sais plus par quel philosophe, je ne sais pas quoi, il a été prouvé que les gens qui s'intéressent à l'astronomie, les civilisations qui s'intéressent à l'astronomie, c'est celles qui sont le plus pourvoyeuses de paix dans le monde.
Stéphane Guittard, guide naturaliste, gérant de l'Oplibleu, www.oplibleu.fr pour ses sorties, tout autour de Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne et dans le Tarn. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera, vous le savez, rediffusé à 18h et à 21h. Et vous le savez aussi, vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site internet cfmradio.fr comme l'entièreté de ce qui vous est proposé sur CFM Radio. La suite, ce sera depuis Montauban avec Rémi. Ce sera juste après les infos pour maintenant.